BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Ben Aouda, Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire du jour sera Frédéric Simotel avec la sortie du livre de la plus grande journaliste tech de l'histoire. Je vous redonne tous nos adresses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube. C'est la librairie de l'écho où vous retrouverez tous les programmes et tous les résumés et les rediffusions de l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. La transition écologique et énergétique au cœur de cette librairie de l'écho, parce que oui, on a très bien compris les objectifs à atteindre, au premier rang desquels la neutralité carbone en 2050, mais qui nous montre vraiment le chemin pour atteindre ces objectifs, qui fournit vraiment le mode d'emploi et donc comment faire changer les comportements par adhésion, par contrainte. Le capitalisme peut-il devenir vertueux? Réponse avec nos deux invités. Michel Aglietta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, conseiller scientifique au CEPI. Vous êtes un des fondateurs de l'école de la régulation et vous publiez Pour une écologie politique au-delà du capital au sein chez Odile Jacob. C'est avec Étienne Espagne. Et puis, Sœur Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'INSEC Grande École, une école de management, hein, c'est ça?
Absolument.
Et vous êtes spécialiste des enjeux de longévité et vous publiez Et si les vieux aussi sauvaient la planète aux éditions Michalon. Michel Aglietta, on commence avec vous, avec peut-être une petite précision lexicale. Alors, on est devenu familier de la notion d'anthropocène, hein, cette époque géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur la Terre. Et vous, diffusez beaucoup dans ce livre la notion de capitalocène. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalocène?
C'est-à-dire que, vous voyez, l'anthropocène, c'est une idée qui est que l'humanité a pris certains contrôles sur la nature.
Ouais.
Mais l'humanité, ça n'existe pas comme un acteur économique ou politique ou quoi que ce soit en réalité.
Ouais.
Et donc, il est vrai que sur longue période, les transformations de l'humanité sur la nature sont produites de différentes manières, par l'agriculture pour commencer, mais à chaque fois, ça a été la création de l'État. Ça a été, si vous voulez, des structurations de la société prenant en charge ces éléments de la nature. Et donc, en réalité, ça veut dire que s'il faut regarder de près, c'est qu'on a une dette écologique à l'égard de la nature, parce qu'on est inséré dedans et on ne la domine pas. Or, c'est exactement l'inverse que pense le capitalisme, hein. C'est-à-dire qu'il va dominer la nature par sa propre logique, car la logique du capitalisme n'a aucune équité derrière lui, hein, aucune caractéristique de justice à respecter. Mmh. Et parce que le capitalisme, c'est faire de l'argent avec l'argent, hein, fondamentalement, en transformant le processus de production. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a différentes étapes du capitalisme qui définissent ce qu'on appelle autant de formes de capitalocène.
Ouais.
Puisque à la place d'anthropocène, il faut mettre capitalocène en regardant comment le capitalisme a détruit la nature au fur et à mesure de son développement.
Alors je sais que c'est très compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous faire une brève histoire de ces différentes époques dans lesquelles finalement le capitalisme s'est réinventé?
Absolument.
À chaque fois vous avez une date charnière, hein, vous dites il y a 1492 qui est un moment qui change tout dans l'histoire de l'humanité.
Oui, 1492, donc ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique, ouais, si vous voulez, va être une transformation qui va introduire à la fois l'esclavage, à la fois la domination sur les femmes, la chasse aux sorcières, à la fois, si vous voulez, les transferts de population qu'ils vont devenir des esclaves depuis l'Afrique vers l'Amérique. Donc il y a une restructuration complète qu'on peut appeler encore déjà l'économie à
et
cette époque.
Et c'est vraiment à partir de là que l'empreinte de l'homme sur l'environnement et la nature s'accélère, en fait.
S'accélère considérablement. Et donc, avec différentes formes, ce qui est pour ça, pour nous, on a dit, c'est dans des étapes du capitalocène, si vous voulez. Une première qui est primitive, en quelque sorte, hein, c'est le contrôle qui est pris par le capitalisme privé sur la nature avec ce qu'on appelle les enclosures, etc. Hein. La deuxième forme, c'est la révolution au moment de la révolution industrielle, si vous voulez. Donc, on peut l'appeler capitalocène. Capitalocène dominé par l'Empire britannique. Hein.
Ouais.
Et ce capitalocène par l'Empire britannique, c'est une première forme de capitalocène industrialisé, mais dans lequel c'est le charbon qui est déterminant.
En fait, c'est à chaque grande révolution énergétique.
Oui, c'est-à-dire que, alors qu'on parle d'étalon or, d'étalon sterling, il faut parler d'étalon charbon sterling, en réalité. D'accord. C'est-à-dire la forme de l'industrie fossile qui va dominer une époque est celle à partir de laquelle le processus, à la fois le processus monétaire, les redistributions, etc., se produisent.
Alors, il y a une notion importante, Michel Aglietta, à chaque fois, qu'il faut que vous nous expliquiez, qui est au cœur de vos raisonnements, c'est la notion de viabilité de chaque régime.
Absolument.
Finalement,
la viabilité. La théorie de la viabilité, c'est celle à partir de laquelle on a travaillé, hein, qui a été mise en place par un mathématicien qui s'appelle Jean-Pierre Aubin. Et qui s'oppose totalement à la conception néoclassique, parce que la conception néoclassique présuppose que l'on mette un prix à la vie humaine.
Ouais.
Et un prix unique à la vie humaine dans le monde, ce qui est une absurdité totale, évidemment. Alors que la théorie de la viabilité, c'est une théorie qui essaye de définir comment un système peut durer dans le temps, ou comment il a une crise qui amène à des transformations de ce qu'on va appeler des régulons, qui vont passer à une autre forme de viabilité.
Ça, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez montré toute votre vie, Michel.
Absolument. J'avais pas pris l'écologie dedans, maintenant je la prends.
Et maintenant, vous la prenez en compte. Alors, pour vous taquiner, Michel Aglietta, je vous dirais quand même qu'il n'y a pas que les régimes capitalistes qui ont maltraité l'environnement.
Ça a commencé avant. Oui. Ouais. Mais avant, c'était, en effet, je vous dis, dès que l'agriculture est mise en place, hein, vous avez des fermiers et vous avez une distribution de pouvoir de certains sur d'autres. Hein. Tout de suite, ça s'est produit à partir de ça. Hein, quand on passe d'une période très 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 ancienne, hein, pré-agriculture, à l'agriculture, on voit cette différence, si vous voulez. Hein. Ces régimes-là, mais c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est beaucoup plus fondamental, en ce sens que dans le capitalisme, c'est sa logique même, si vous voulez, dans son développement, qui le fait.
Hein. Oui, mais vous qui l'avez ausculté comme personne, ce capitalisme, est-ce que vous n'êtes pas, entre guillemets, émerveillé par ce qu'on pourrait appeler sa plasticité, c'est-à-dire sa capacité à prendre des formes nouvelles, consécutives, finalement, à ces crises qui ont détruit les précédents modèles, mais toujours différent, mais toujours le même, quelque part.
Exactement. Mais comme elle prend la nature comme un don gratuit, à chaque fois, si vous voulez, elle la détruit un peu plus.
Alors, l'enjeu de votre livre, Michel Aglietta, c'est de vous demander si finalement, puisqu'on a bien compris que le système capitaliste dans lequel nous vivions aujourd'hui, allait lui aussi subir une crise, c'est est-ce que ça va être une énième crise dont le capitalisme va renaître sous une autre forme, ou bien est-ce qu'on est au bout de la logique capitaliste.
Absolument. C'est en effet la question fondamentale qu'on se pose. Hein. Parce que il est vrai que jusqu'à présent, le capitalisme s'est transformé en créant des modes de régulation à chaque fois nouveaux.
Ouais. Hein.
et des types d'institutions qui font qu'il a pu dépasser les phases antérieures, puis il y a une nouvelle crise qui apparaît, puis il se transforme. La question aujourd'hui est fondamentale, et nous terminons par une interrogation dessus, c'est de savoir si la prépondérance du collectif, à la fois dans les conséquences de la destruction de la biodiversité, qui sont vraiment décisives, c'est-à-dire destruction vraiment de la nature, évidemment le changement climatique et son futur, la question c'est de savoir si ceci ne suppose pas une prépondérance du collectif telle que pour que l'humanité, si vous voulez, puisse poursuivre un avenir viable. Ce qui suppose, parce que vous trouvez des choses invraisemblables, il y a des gens qui disent, alors on peut aller jusqu'à 4-5 degrés
de hausse de température. Oui, parce qu'on vous dit, il y aura toujours des technologies, il y aura toujours des...
Alors ça, c'est une interrogation. Moi, la position qu'on a, c'est une interrogation là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que la viabilité pour des populations... Ouais. Des générations futures n'implique pas, si vous voulez, une transformation radicale qui est le collectif devenant absolument prépondérant et où, par conséquent, la logique capitalisme disparaît entièrement.
Oui, mais Michel Aglietta, alors vous ne tranchez pas ce débat.
On tranche pas ce débat.
Oui, sauf que vous esquissez quand même les contours de ce que vous appelez une nouvelle économie politique, finalement. Alors, est-ce qu'on appelle ça une planification écologique ? Et vous citez quand même, vous regardez ce qui se passe...
La planification écologique qui joue un rôle crucial.
Ben oui, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, et vous dites quoi ? Vous dites c'est possible ou pas ?
Ben, la planification écologique est absolument décisive, est absolument décisive à la fois pour disons que le changement climatique puisse être suffisamment dominé pour que on n'ait pas une situation dans laquelle les générations futures seront dans un contexte invivable. Quand des gens disent il est possible d'avoir 4 degrés ou 5 degrés, c'est totalement aberrant, je veux dire, la civilisation ne peut plus survivre. Ça qu'il faut avoir en tête. Et par conséquent, le maintien à arriver à tenir le 1,5 degré paraît évidemment quelque chose de tout à fait fondamental.
Sauf, et ce sera la transition avec vous, Serge Guérin, qu'il y a quand même un triangle d'incompatibilité, Michel Aglietta, aujourd'hui, entre justice sociale, écologie et démocratie. C'est-à-dire voit bien qu'on peut pas avoir les trois en même temps.
Ben, c'est pourtant ce que le GIEC cherche.
Oui.
Le GIEC met évidemment dans son rapport d'avril 2023 exactement ce problème là-dessus. Il faut tenir à la fois le principe d'équité sociale minimale, parce que la transition doit être juste pour que toute la population soit engagée dedans.
Oui, mais c'est là, Michel Aglietta.
Et la limite écologique. Ouais.
Et c'est là où vos livres sont intéressants à tous les deux, parce que le GIEC dit, en général, il faut, mais il nous propose pas le chemin. Moi, c'est ça qui toujours me heurte. C'est-à-dire qu'en gros, on nous propose, en fait, une destination, mais jamais une transition, au sens propre. C'est-à-dire un chemin pour y aller. Et, votre livre, Michel Aglietta, il contribue quand même à,
à
éclaircir les idées pour trouver les chemins.
Trouver
et Serge Guérin, vous avez un chemin, aussi. Alors vous avez trouvé la solution, puisque vous nous proposez deux transitions pour le prix d'une. J'ai envie de dire. Oui, mais du coup, qui vont se faciliter l'une l'autre. C'est la transition écologique et la transition démographique. Et vous inventez d'ailleurs un très beau terme, parce qu'on connaît la silver economy, donc qui est l'économie du vieillissement. Et vous dites, si on combine les deux, on aboutit à la silverte économie.
Oui, c'est ça. Au départ, c'était aussi, je trouvais qu'on opposait beaucoup. D'abord, vous le savez bien, on est très comptable dans nos pensées. Il y a ceux qui pensent l'écologie, il y a ceux qui pensent la démographie, il y a ceux qui pensent ni l'un ni l'autre, voilà, et ainsi de suite. Et globalement, c'était souvent d'opposer. Par exemple, j'entendais beaucoup des gens qui disaient « Oui, mais les vieux, par exemple, sont totalement... » D'abord, c'est leur faute, c'est des méchants pollueurs, en plus, ils s'en fichent complètement, et heureusement...
Les boomers égoïstes...
Totalement, ok, boomers, ainsi de suite. Et heureusement, il y a les jeunes qui sont tous formidables, tous très impliqués dans l'écologie. Donc, je suis allé regarder un petit peu ça. Alors, déjà, comme prof, je le voyais bien avec les étudiants que c'était quand même un peu plus compliqué. Et puis voilà. Et donc je me suis intéressé à ça d'un côté. Puis de l'autre côté, en me disant mais pourquoi on oppose tout le temps ? Et ce que je vois aussi, alors à la fois dans ma pratique professionnelle et dans les analyses que j'ai pu faire, les études, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses où finalement la prise en compte des deux, aussi pour des raisons de pouvoir d'achat, aussi pour des raisons d'économie domestique, je dirais, fait qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui agissent de ce côté-là.
Mais quelle est la synergie finalement entre les deux transformations ? Comment l'une alimente l'autre ?
En fait, c'est ça. C'est que on sort du théorique et on regarde un petit peu le pratique. On se dit où est-ce que ça se passe ? Où sont les lieux déjà ? Par exemple, le monde de l'habitat, le monde du logement. Alors, on parle beaucoup de, avec des coûts et avec une gestion gouvernementale qui est sans doute discutable, mais MaPrimeRénov, par exemple. Puis aujourd'hui, on va lancer autour du vieillissement MaPrimeAdapt. Par exemple, se dire, mais est-ce que quand un artisan vient pour changer une baignoire en douche, parce que bah, pour la personne âgée, c'est moins risqué, elle tombera moins si elle prend une douche plutôt qu'une baignoire, et que par ailleurs, elle utilisera moins d'eau, donc en termes d'écologie, c'est mieux, est-ce qu'en même temps, on ne peut pas en profiter pour intervenir, pour réduire les passoires thermiques, par exemple ? Et donc, voilà, tout bête, c'est globalement les mêmes compétences. Plutôt que faire deux fois le travail, les gens qui habitent dans les villes voient souvent quand même, on répare du bitume, puis hop, six mois plus tard, on va faire autre chose. Peut-être les faire en même temps, ouais. On économise les deniers publics et finalement, on agit directement sur les deux. C'est un exemple.
Ouais, et alors j'étais frappé, vous dites, en fait, il y a beaucoup d'inventions qui sont des innovations destinées, en fait, au départ, aux populations fragiles. C'est-à-dire, vous dites, la télécommande, par exemple, ça a été inventé au départ pour les gens qui pouvaient pas se déplacer. Le SMS, ça a été inventé pour les malentendants qui puissent communiquer plus facilement.
Alors, je pars aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de care. Et globalement, l'économie du care, d'abord, pourrait prendre en compte toutes les fragilités. Les fragilités de la Terre, qu'on a créées très largement, mais n'empêche que, et les fragilités des personnes. Et finalement, ça peut être un levier d'innovation, un levier économique, un levier d'activité économique, qui, en même temps, si je reprends cette expression, sert à la fois les personnes, en particulier les personnes les plus fragiles, mais contribue aussi finalement, à une réponse écologique plus importante. Si on pousse, par exemple, parce que les gens marchent plus, pas bête, c'est bon pour la santé, c'est bon par rapport à l'écologie, et ça permet, finalement, il y a moins d'accidents quand les gens marchent plus. Vous voyez, donc, souvent, on peut trouver comme ça des cohérences.
Pour faire écho à ce que disait Michel Aglietta, vous dites, on ne réussira aucune de ces transitions, ni écologiques, ni démographiques, si l'on ne mobilise pas toutes les générations.
Absolument, c'est-à-dire que quand même le discours d'une grande partie de l'écologie politique, qui a un agenda politique assez marqué, on va le dire comme ça, c'est quand même globalement les vieux ont rien compris. Heureusement, il y a les jeunes. Les jeunes n'ont pas tous compris. Même s'ils le savent, c'est pas pour ça qu'on change de comportement. Et que deuxièmement, je crois, vous savez, c'est on change pas une société par décret. Vieille formule. D'un sociologue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va pas partir du haut, ou en tout cas, ça ne suffira pas. Si on n'emmène pas les gens, on fait quoi ? On fait une dictature verte ? Je me méfie toujours.
Mais ça
en
revient
plus
sur notre triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire qu'avoir en même temps justice sociale, écologie et démocratie, on voit bien que c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez l'écologie et la justice sociale, on voit bien que c'est pas plus de 4 vols par an, enfin par personne de vie. Donc ça a un côté liberticide. Et on ne sort pas de ça. Alors sur le chemin, moi il y a quelque chose dans votre livre qui m'a passionné. Est-ce que Michel Aglietta, vous connaissez le modèle transthéorique de Prochaska? Eh ben, c'est un modèle qui date de 1979 de changement intentionnel de comportement. Et là, on est dans le sujet, c'est-à-dire comment on fait pour que les gens changent volontairement de comportement. Et alors, c'est un modèle qui a été construit apparemment à partir de l'expérience des gens qui veulent arrêter de fumer. Quelles conclusions on peut tirer de ce modèle ?
Alors, c'est super intéressant parce que, oui, je l'ai pris, encore une fois, je travaille beaucoup sur les enjeux de santé et tout ça. À un moment donné, on sait bien que c'est la question de la prévention, finalement, un des discours majeurs auxquels on passe complètement à côté. C'est la question de la prévention. Si je fais attention avant, j'évite plein de problèmes. Si on fait attention aux forêts, si on finance des gens, y compris, je sais pas moi, pour élever des brebis et ainsi de suite, on évitera des feux.
Vous dites, plus il y aura de prévention, moins il y aura de décroissance.
Exactement. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la prévention est une économie. On dépense de l'argent ou on investit, si on préfère, de l'argent dans la prévention pour éviter ensuite des échecs économiques. Et cette histoire-là de Prochaska, c'est génial parce que c'est comment on fait la leçon. Vous le savez bien, on fait la leçon aux gens. Non, c'est pas bien de fumer. Les premières campagnes de communication sur le tabac, 1974. Donc il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont nés avec déjà toutes ces campagnes et pour autant qui continuent à fumer. Et quand on fume, on sait bien que c'est mauvais pour soi, mais c'est aussi mauvais pour l'écologie.
Alors qu'est-ce que nous apprend ce modèle ?
Eh ben c'est qu'en fin de compte, alors c'est pas un travail comme ça. On fait pas de la morale. On montre aux gens comment finalement ils y trouvent leur intérêt. Et donc là, en effet, il y a un chemin parce que finalement, c'est de se dire mais votre intérêt, c'est attentif à l'écologie. Votre intérêt, c'est attentif aux fragilités, au vieillissement. Parce que demain, vous risquez d'être touché par cette question de réchauffement climatique, par exemple, et demain, vous risquez d'être touché par le vieillissement. C'est donc, c'est mettre les gens face aux réalités et de les accompagner par rapport à ça. Je crois beaucoup à la notion de formation, de pédagogie et alors, d'intérêt. C'est-à-dire qu'une sorte d'égoïsme solidaire. Je me rends compte que j'y ai intérêt déjà pour ma gueule, avant celle des autres.
Alors, il y a un point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le niveau de décision, le niveau à partir duquel les choses doivent changer. Et vous dites là, il faut vraiment restaurer la priorité aux circuits locaux. Quand je dis circuits locaux, c'est circuits locaux sous toutes leurs formes, notamment circuits de décision, de production, de consommation, etc.
Oui, parce que ce qu'on voit, c'est les gens, quand on... Ah oh là, je suis pas content, là, ma rivière, vraiment, elle est sale. Tu te rends compte qu'avant, on s'y baignait. Aujourd'hui, on peut pas, nos petits-enfants peuvent pas y aller. Petits-enfants qui disent, ah, oh, c'est dommage, ça serait quand même sympa. Et donc, tiens, et si on agissait ensemble, là? Et finalement, c'est pas... c'est plutôt la Corrèze que le Zambèze, d'une certaine manière, vieille formule. C'est-à-dire que je vais le faire là où je peux agir. Parce que très souvent, les gens disent, écoute, on fait... C'est même pas la peine parce que de toute façon, on n'a pas la main. Et là, on se dit, tiens, on va agir là, sur la rivière. Et du coup, on voit un an, trois ans après, les effets de notre action. Parce qu'un des gros problèmes, c'est j'agis, mais je ne vois pas les effets. Or, j'ai besoin, d'une certaine manière, d'un stimuli, de me faire plaisir, de me dire, eh, dis donc, ce qu'on a fait, vous savez, c'est comme on arrête de fumer, ah bah tiens, j'ai fait les économies, j'ai moins mal aux poumons et je marche plus vite. Je vois les effets assez vite. Et bien là, on s'est mis, les jeunes, les vieux, les entre-deux, et ainsi de suite, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont moins d'argent, ainsi de suite, on s'est fait, et globalement, la rivière va mieux. Et donc, nous-mêmes, on va mieux. Donc, c'est voir le concret.
Et c'est la sobriété, ça.
Ça, c'est la sobriété, mais la sobriété heureuse, j'ai envie de dire.
C'est ça, joyeuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il manque un mot.
Ouais.
S'il n'y a pas de joie, on n'y arrivera pas. Moi, je veux bien, hein, on fait une super écologie, mais on fait tous la gueule. Ça ne marchera pas. Il faut aussi qu'on trouve de la joie.
Alors, vous abordez une question fondamentale pour terminer, qui est cette double transition écologique, démographique, elle pose la question de la quantité et de la qualité de travail. Grosso modo, est-ce que la vie décarbonée, c'est plus de loisirs ou c'est plus d'efforts ?
Alors là, je vais pas me faire que des amis, moi je crois. Tu sais, je le dis aussi parfois aux étudiants. Écoutez, je suis un vieux con. Je veux dire que quand on travaille, ça marche mieux que quand on fout rien. Et qu'à un moment donné, par exemple, quand on accompagne, la notion de productivité, elle est hyper dangereuse. C'est quoi la productivité de l'enseignement? C'est quoi la productivité pour accompagner quelqu'un qui est touché par le handicap ou qui est touché par l'âge? À un moment donné, c'est prendre le temps. Et donc, donner plus de temps dans le travail, qui est sans doute une manière, finalement, de générer plus d'activité. Et par ailleurs, d'être plus attentif à la Terre, à la planète, comme aux êtres humains qui en ont besoin. Et de ce point de vue-là, moi, je crois que c'était une erreur idéologique très forte d'être dans l'idée, non, on va toujours travailler moins. Vous savez, ce droit à la paresse, ainsi de suite. J'avais retrouvé un vieux bouquin des années 1800, où à un moment donné, c'était drôle. Le gars disait, mais au fait, si tout le monde fait comme nous, il y a 6 personnes travaillent, comment on va faire ? La paresse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui soient pas paresseux. Et à un moment donné, c'est le passager clandestin, quoi. Moi, je fais rien. Mais parce que d'autres vont travailler. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne le temps de mieux travailler.
Michel Aglietta,
pour conclure. La qualité du travail qui est fondamentale.
Ouais. Alors pour conclure, Michel Aglietta, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une forme de capitalisme dans laquelle, finalement, uniquement par intérêt, on pourra aller vers, finalement, une organisation qui soit beaucoup moins orthogonale aux intérêts de la planète. Est-ce que, par simple intérêt, le capitalisme peut sauver la planète ou pas ?
Non, mais c'est l'interrogation sur laquelle j'ai pas apporté de réponse, parce que c'est pas du tout évident. Il y aurait vraiment une mutation quand même dans le capitalisme pour faire ça. Parce que tant qu'il n'a aucune éthique, que faire de l'argent avec l'argent, c'est sa seule logique, il faudrait qu'il y ait une transformation. Il y a des institutions qui peuvent l'empêcher à certaines périodes de limiter en quelque sorte. C'était le cas du Fordisme, par exemple, dans les années 60, où il y a eu à la fois un développement massif du capital, mais aussi un progrès social considérable. Le problème, c'est qu'il aboutit toujours à une crise dans le capitalisme, à une période où il le dépasse, si vous voulez, les conditions dans lesquelles il semble pouvoir être compatible avec le progrès social. Il le dépasse parce que il n'a pas d'aucune logique d'équité.
Et c'est là que ça craque à chaque fois.
Et ça craque.
Il faut inventer l'égoïsme solidaire.
C'est ça pas peut mal, être un ça. Chemin. J'aime bien cette idée. Oui, l'égoïsme solidaire, c'est effectivement ça. C'est finalement mon intérêt particulier sert finalement le bien
commun. Il faut arriver à trouver.
C'est la version 21e siècle de la main invisible.
Une main solidaire invisible.
Merci messieurs pour vos deux livres absolument passionnants, très riches. Michel Aglietta, Étienne Espagne pour une écologie politique au-delà du capitalocène. C'est chez Odile Jacob et puis Serge Guérin. Et si les vieux aussi sauvaient la planète, c'est aux éditions Michalon. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaoud Abdedaïm, toujours, et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour, ce sera Frédéric Simotel, autour de la tech, bien évidemment. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis grand animateur des critiques littéraires aussi chez Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président pour le moment. Alors, messieurs, vous avez choisi deux livres cette semaine, deux livres de journalistes. C'est peut-être le seul point commun, d'ailleurs, entre ces deux livres. Allez, on va commencer par le choix de Christian Chavagneux, le livre de Michael Correia, ça s'appelle Le mensonge total aux éditions du Seuil.
Donc, le mensonge total pour Total
avec
Énergie.
Un T majuscule.
Avec un T majuscule pour l'entreprise Total. Michael Correia, c'est un journaliste enquêteur à Mediapart. Et donc, il nous livre le fruit de son enquête à charge, il faut le dire tout de suite, la première à la dernière page, contre l'entreprise Total. Si aujourd'hui, je dis, le fait de produire et de consommer des hydrocarbures, pétrole, gaz, ça produit du CO2, ça détruit la planète, tout le monde dit, oui, ok. Première surprise, dans ce livre, on découvre que cet argument, il est présent dans un journal interne, une revue interne de Total, en 1971. 71, fin des années 60, début des années 70, c'est le début de l'éveil écologique un peu partout sur la planète, y compris dans une revue interne de Total. Que va faire l'entreprise lorsque quelqu'un en interne dit ça ? D'abord, rien. Ensuite, la fabrique du doute, essayer de dire non, vous savez, il n'y a pas de consensus scientifique. Hein. Et puis finalement, quand le consensus scientifique est là, du greenwashing. En tout cas, c'est ce que défend l'auteur pour une bonne partie du livre. Alors, effectivement, Total, il y a un plan vert. À horizon de 2030, on va faire stagner les émissions de CO2. Oui, mais c'est bien. Sauf que le GIEC dit que pour pas qu'il y ait un réchauffement climatique, il faut les faire baisser de 40%. Donc on en est très très loin. Et d'ailleurs, y compris dans ce plan vert de Total Énergie, il y a bien indiqué qu'à l'horizon 2030, 80% des énergies qui sont produites, viennent encore des hydrocarbures. Des hydrocarbures et seulement 20% des énergies non renouvelables. Oui, il y a des investissements dans les ENR, mais l'auteur nous dit... Un deuxième chiffre qui m'a surpris, c'est trois fois moins que ce qui est distribué chaque année aux actionnaires. Donc les priorités totales, c'est 1, les hydrocarbures à fond, 2, on rémunère les actionnaires, et 3, quand il reste un petit peu d'argent, on investit dans les ENR. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des bombes climatiques, c'est-à-dire c'est des exploitations d'hydrocarbures qui, s'ils vont jusqu'à la fin de leur vie, ça crée vraiment des gros dégâts sur la planète. Total, on n'a pas 1, 2, 3, il y a plus de 20 bombes climatiques dans son actif. Donc voilà, Michael Correia ajoute plein de choses. Alors, vous me direz, à un moment donné, on va consommer moins de pétrole et de gaz. Donc Total, ils sont complètement fous de ne pas faire autre chose, de ne pas penser à la diversification. Si, nous dit l'enquêteur, il y a diversification pour faire quoi ? Du plastique. Bon, on ne se refait pas. Quand on est dans le pétrole, on reste dans le pétrole. Tout ça, on pourrait dire, c'est une entreprise privée. Et puis, quand une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut, tant qu'il y a des gens pour les financer, tant qu'il y a des clients, Sauf que le dernier chapitre nous dit, attention, il y a toujours une proximité extrêmement forte des dirigeants de Total avec le pouvoir politique français. C'est encore plus vrai aujourd'hui, en tout cas c'est toujours vrai aujourd'hui. Et donc on a un discours général sur notamment de nos politiques et du président de la République pour dire il faut lutter contre l'erreur. Et en même temps, un Emmanuel Macron, une diplomatie française au service des intérêts totaux, avec des projets pas toujours respectueux, nous dit l'auteur du livre, de ce qui se passe au niveau de la flore, de la faune dans les pays africains qui sont concernés. Donc voilà, un livre à charge, mais je trouve qu'un livre qui apporte des éléments d'analyse.
Jean-Marc Daniel.
Ah oui, c'est un livre à charge. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Enquête sur un criminel climatique ». Sauf que ça n'apporte aucun élément d'analyse. C'est-à-dire que 1971, parce qu'à la fin, il dit « La bonne solution, ce serait de renationaliser Total ». Je rappelle qu'en 1971, Total était déjà nationalisé. Donc, c'est pas le souci du profit qui avait considéré, qui avait été à l'action de Total en 1971. Quand il dit « Total est entre les mains, effectivement, de l'État », et puis « L'État est entre les mains de Total ». Et il prend un exemple, il dit, voilà, il y a un ancien ministre de l'Éducation qui détenait du capital de Total. Vous savez combien il détenait de Total ? 6 000 euros. Vous savez que quand vous êtes actionnaire à hauteur de 6 000 euros...
C'est trois lignes dans le livre, Jean-Marc va chercher le petit machin de rien du tout.
C'est pas trois lignes dans le livre parce que c'est tout le chapitre.
Mais sur les arguments.
Il dit, écoutez, ce que met en avant Total, c'est le fait qu'il y ait une demande. Bon, c'est vrai qu'il y a une demande, mais c'est parce que cette demande, elle a été orientée. Puis un peu plus loin dans le chapitre, il dit, on pourrait considérer que Total a gagné son argent grâce à nous, parce que il facture de façon très élevée ses prestations, et il peut se le permettre parce qu'il y a une demande en regard. Et on peut pas faire autrement que de satisfaire cette demande. Alors il faut savoir, est-ce que l'argument de la demande est un argument faux, ou est-ce que la demande, elle est vraiment là, et on peut pas faire autrement. Sur l'Afrique, il nous parle, alors je trouve que c'est une assez belle expression, de colonialisme fossile. Et sur le colonialisme fossile, il met en avant le fait que, effectivement, Total va exploiter un champ pétrolifère en Ouganda. Mais il précise au passage quand même que c'est à la demande du gouvernement ougandais et que le principal actionnaire, c'est Total, mais qu'à hauteur d'un tiers, c'est le gouvernement ougandais, et que le gouvernement ougandais dit que si on ne fait pas ça, on va priver l'Afrique de cette ressource pétrolière au profit des pays qui sont déjà installés, qui ont déjà une rente. Et que, d'une certaine façon, en faisant ça, Total aide l'Ouganda à se développer. Donc le livre est effectivement non seulement à charge, mais en plus de mauvaise foi, et il n'est pas très convaincant dans la liste, parce qu'il dit qu'il n'y a que deux lignes sur les 6 000 euros, mais il y a aussi d'autres parlementaires. Il y a un autre parlementaire qui est mis en avant, c'est 14 000 euros, lui, qu'il a d'action de Total. Et il y en a un qui est encore plus lourd et plus grave, toujours un parlementaire. 2 000 euros d'action Total. Vous imaginez l'influence qu'a Total et que la maîtrise qu'a Total de notre classe politique. Donc,
trois pages du livre sur lesquelles Jean-Marc nous fait 5 minutes. Mais c'est bien, au moins il l'a lu.
Tout ça est grotesque.
Il y a des fois, quand je vous allais dire, je sais pas ce que vous allez dire sur tel ou tel bouquin. Là, j'avais pas tellement de doutes sur ce qu'allait dire Jean-Marc. Vous avez choisi le livre de Christine Kerdelan qui s'appelle Ces milliardaires plus forts que les États aux éditions de l'Observatoire. Et là, j'avoue que ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que Christian va en penser, mais ça m'intéresse. Aussi. Alors, présentez-nous ce livre, Jean-Marc Daniel.
Parce que justement, Christine Kerdelan, elle n'est pas dans le camp de ces milliardaires en question. C'est-à-dire que elle rappelle bien dès le début, donc Christine Kerdelan, c'est une journaliste qui a été à la tête du magazine L'Usine Nouvelle pendant plusieurs années.
L'entreprise, qui
est proche du monde de l'entreprise et qui a fait beaucoup de papiers sur le plan économique. Et donc là, elle s'intéresse à un certain nombre de milliardaires, donc les milliardaires Elon Musk, les fondateurs de Google, Bill Gates,
Jeff Bezos.
Et elle dit que tous ces gens ne sont pas forcément les plus riches, parce que tout le monde sait que l'homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault, mais personne ne chercherait à s'interroger sur les intentions réelles et fondamentales de Bernard Arnault. Parce que, dit-elle, derrière ces gens, il y a une sorte de psychopathie, d'une certaine façon, qui consiste à vouloir non seulement utiliser la tech pour changer le monde, pour faire des profits, mais également pour imaginer des sortes d'utopies invraisemblables et une sorte de volonté de pouvoir incroyable. Alors, elle prend des exemples, elle dit Bill Gates est très impliqué dans la santé, les fondateurs, donc Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, ils rêvent de créer l'immortalité. Elon Musk, son intention, c'est de se rendre sur Mars. Jeff Bezos aussi. Elle dit donc qu'il y a une sorte de, par rapport aux milliardaires traditionnels, ces gens-là ont une dimension qui est inquiétante parce qu'elle est à la limite de la psychopathie. Et en plus, ils ont un pouvoir colossal. Elle prend l'exemple, par exemple, d'Elon Musk, qui, suivant les moments, est pour les Russes et pour les Ukrainiens, et donc fait jouer son réseau de satellites en faveur de l'un ou l'autre des belligérants. Et donc, elle dit, il faut faire quelque chose. Alors, il y a deux façons d'agir. Il y a la façon chinoise, ça c'est l'avant-dernier chapitre, où on prend Jack Ma et puis on l'humilie, on le met en prison et on l'oblige à partir à Tokyo où il finit fini en professeur de management dans des universités de seconde zone. Et puis, il y a la façon de la résignation. On imagine qu'effectivement, ces gens-là vont prendre le pouvoir, qu'il n'y aura plus d'État. Et alors, à la fin, il dit, il faut trouver un moyen terme. On ne peut pas se laisser aller à donner trop de pouvoir à ces gens-là, mais faire de la Chine un modèle et une référence, c'est peut-être aussi un peu abusif. Et donc, il y a un côté assez pessimiste et pas forcément pro-capitalisme, pro-entreprise, dans le livre qui fait que c'est un livre assez original. Alors, et assez intéressant.
Christian Chabagneux, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre de Christine Cardellan?
À la fin de l'intro, on se dit, waouh, le bouquin va être génial, parce qu'elle nous dit, c'est pas les GAFA qui sont en train de prendre du pouvoir par rapport aux États, ce sont les dirigeants, ces individus à titre personnel, ouais, qui, avec tous les projets qu'ils développent, et surtout avec l'argent dont ils disposent, sont en train de manger le pouvoir des États. Quand on rentre dans chacun des chapitres, 80 à 90% du chapitre, c'est un résumé de ce qu'on sait, de la biographie, du parcours entrepreneurial, de tous ces gens. Donc on est un petit peu déçu parce que le chapitre ne donne pas vraiment ce que promettait l'intro. Dans les 10-15% qui restent, là où elle essaie de nous convaincre effectivement que ces gens, à titre individuel, ont conquis vraiment du pouvoir par rapport aux États, elle nous dit par exemple, regardez, Jean-Marc en a pris l'exemple, Elon Musk, il peut décider de l'avenir d'une guerre à lui tout seul en fonction du fait qu'il met son réseau de satellites au service des Russes. Si Jacques Coeur décide de ne pas financer Jeanne d'Arc, on n'aurait jamais entendu parler de Jeanne d'Arc. Si Semblançay ne va pas chercher les banquiers italiens pour financer François Ier, il ne fait pas sa campagne d'Italie. Donc, un individu qui décide tout seul si l'État a le droit de faire une guerre ou pas, on en a plein d'exemples dans l'histoire. Est-ce qu'ils sont originaux parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts? Tous les grands investisseurs, tous les grands capitalistes de l'histoire ont tous essayé d'échapper aux impôts. Est-ce qu'ils sont originaux parce qu'ils plantent écologiquement la planète? Ben non, tous ceux de la révolution industrielle ont planté la planète. Tous ceux du capitalisme commercial du XVIIIe siècle ont déforesté les forêts à fond pour pouvoir construire des bateaux. Donc il y a pas, moi je trouve qu'à chaque fois qu'elle essaie de nous dire qu'il y a un pouvoir original dans la façon de s'enrichir, est-ce qu'il y a une façon? Veblen nous a dit au début du XXe siècle que tous ces grands capitalistes, ils ont tous la même façon de s'enrichir, c'est le sabotage. Faut saboter les États, donc on paye pas les impôts, on tourne les règles et on prend l'argent de la commande publique. Faut saboter les clients, soit on leur fait payer très cher le cloud, soit on détourne leurs données personnelles pour les vendre. Il faut saboter les concurrents. Et là il y a plein d'exemples et tous ces milliardaires ont saboté tous leurs concurrents. Donc, il reste peut-être une chose qui vraiment les distingue de l'ensemble des grands capitalistes de l'histoire, c'est le post-humain. C'est cette idée qu'on va ralentir le vieillissement des cellules, cette idée qu'on va entraîner des IA qui vont parler comme nous, réfléchir comme nous, et le jour où on sera mort, on mettra cette IA dans un autre corps, dans un avatar, et puis on va continuer à vivre de manière éternelle. Ça, aucun autre grand capitaliste ne l'a fait, parce que c'est une vraie preuve de pouvoir, si tant est. Moi, je suis pas assez scientifique pour savoir, peut-être Jean-Marc un peu plus. Est-ce que c'est vraiment ces études scientifiques sont sérieuses? Est-ce qu'il n'y a pas des États qui le font aussi? Bon, sous cette réserve-là, c'est peut-être la seule différence, mais pour le reste, je trouve qu'ils ne sont pas différents du reste des grands capitalistes de l'histoire.
Oui, qui ont tous eu des utopies avant-gardistes.
Tous.
À chaque époque. Eh bien, merci, c'était passionnant. Messieurs, eh bien, c'est l'heure de retrouver Frédéric Simotel. Lui aussi, il continue à nous plonger dans l'univers de la tech avec le livre que vient de publier la star du journalisme tech. Elle s'appelle Kara Swisher.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel.
Bonjour Emmanuel, bonjour.
Ça va Frédéric?
Très bien.
Notre star de la tech à BFM Business et qui vient d'ailleurs, dans le cadre de cette rubrique consacrée aux livres du passé et du futur, eh bien nous parler. Alors, le paradoxe, c'est que c'est un livre qui vient de sortir,
oui,
mais qui nous refait l'histoire. Et c'est le livre de ce que vous qualifiez vous-même, Frédéric Simotel, de plus grande journaliste tech de l'histoire. Elle s'appelle Kara Swisher et elle publie donc Burn Book. Qu'est-ce que c'est que ce livre?
C'est son autobiographie. Oui, c'est une légende dans la presse tech. C'est une femme qui a 62 ans, donc qui a vraiment. Elle est née au moment de la Silicon Valley et elle a accompagné un peu toute la transformation de cette vallée. Donc son livre s'appelle Burn Book Tech Love Story. Je vous le conseille. Je vais vous dire un peu pourquoi. Donc c'est une autobiographie. Alors, c'est vrai que quand on pense autobiographie d'une journaliste, on pense plutôt à un grand reporter de guerre, un journaliste économique, un journaliste politique, pas forcément un journaliste à la tech. Eh bien, elle s'est lancée. Donc, elle a bossé pour le New York Times, Washington Post, enfin, elle a fait vraiment les plus grands journaux, Wall Street Journal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rencontré tous ceux qui font la tech d'hier, hein, les Steve Jobs, Bill Gates, Larry Ellison, et d'aujourd'hui aussi. Elle est même allée jusqu'à Sam Altman, Elon Musk, et ses grands faits d'armes. Alors, elle a très bien détaillé la fusion AOL-Time Warner. d'accord. On apprend d'ailleurs, chose qu'on n'a jamais trop su, c'est qu'à une époque, Bill Gates voulait racheter Time Warner. Ouais. Et il s'est fait souffler par Steve Case, le patron d'AOL. Donc ensuite, elle raconte la débâcle d'AOL. Elle raconte la grandeur et décadence de Yahoo. Voilà, c'était ses grands faits d'armes. Elle a fait un livre sur Elon Musk. Elle a beaucoup commenté le rachat d'Instagram par Facebook, Google et les droits américains sur Internet. Vraiment, c'est un puits de science et un puits d'histoire pour toute cette vallée.
Et donc là, elle nous refait finalement l'histoire de la tech au cours des 30 dernières années. Mais j'imagine qu'elle apporte quelque chose. Elle fait ça.
Oui, elle fait ça un peu plus. Et j'avais oublié de préciser une chose. Elle est tellement dans cette vie que son ex-femme était la patronne informatique du gouvernement américain. Donc elle est vraiment totalement dans tout ça. Et alors dans son livre, elle dit, ce pourrait être la devise de son livre, c'est là, ce pourrait être que ceux qui ne parviennent pas à apprendre les leçons de l'histoire sont condamnés à les répéter. Eh bien elle, voilà, elle parle beaucoup des leçons. Il y en a beaucoup dans Burn Book. Elle parle de tous ces héros hein, de la Silicon Valley. Elle les appelle les rois enfants. Donc le turbulent Steve Jobs, le plus sage, quoi qu'on apprend certaines anecdotes sur Bill Gates, comment il gérait un peu certaines de ses business avec un peu moins de sagesse que ce que montre son visage. Et elle explique comment tous ces personnalités sont arrivées sur scène en gravissant les échelons un par un. C'est pas par le Saint-Esprit.
Mais Frédéric, ce qui est très important, c'est que en fait, elle a mis en avant, elle a mis en lumière ce qui à l'époque étaient des jeunes et qui sont tous devenus les stars d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a eu le flair à chaque fois.
C'est ça. Elle a gardé tous les textos, elle a gardé tous les échanges qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vraiment ça. Et elle dit tiens, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez un peu comprendre comment pensent ces gens-là, même s'ils se sont transformés radicalement, regardez, il faut un peu voir ce qu'ils faisaient dans le passé. Donc elle a gardé tous ces textos. Elle raconte un peu. Elle dit tiens, moi j'ai vu cette dérive de Facebook qui aujourd'hui utilisée par Trump, par Poutine, etc. Elle raconte une anecdote qui est assez drôle, c'est elle écrit un bouquin sur Elon Musk et le titre du bouquin c'est You are an asshole, donc tu es un connard en français dans le texte. Et au moment, le livre n'était pas encore paru, il devait paraître 2-3 jours après, il y a Elon Musk qui dit tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur le rachat de Twitter en bon copain. Elle était un peu paniquée parce qu'elle raconte 2 jours après, il y a le bouquin qui allait sortir avec une insulte en première page.
On ne peut pas éluder la question de l'intelligence artificielle. Elle donne forcément son avis là-dessus.
Alors elle parle un peu de tout ce que l'IA va changer. Mais elle dit des choses importantes. Elle dit que l'IA, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce sont nos pensées, notre art, nos publications qui alimentent cette IA. Cette IA, même l'IA générative, elle se nourrit de tout ça. Et elle le rappelle. Elle rappelle aussi que toutes ces informations qui sont maintenant numérisées sont en fait nous. Et pourtant, elle dit qu'il faut vraiment, s'il n'y a pas une réglementation, ça va être compliqué. Donc on voit, elle défend un peu tout ça. Donc voilà, donc c'est un livre intéressant à la fois pour toutes les anecdotes, sur toutes ces histoires, sur tous ces personnages, et un autre sur la réflexion justement sur tout ce qu'on vit en ce moment sur l'IA. Ça s'appelle Burn Book, Tech Love Story. Ça n'est qu'en anglais aujourd'hui, mais on imagine que ce sera rapidement traduit.
Kara Swisher, merci beaucoup. Et on retrouve notre globetrotter Benaouda Abdedaïm pour sa moisson hebdomadaire d'études glanées à travers la planète.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Et on commence par la Chine, j'ose pas dire le monde à l'envers, mais presque, puisque les jeunes Chinois commencent à envier les revenus des nourrices et des chauffeurs-livreurs.
Oui, le sous-titre, c'est « Quand la valeur des métiers ouvriers est rehaussée ». Ce texte publié par l'influente revue culturelle de Pékin est signalé par le sinologue canadien David Ownby, grand connaisseur et fin connaisseur de la pensée chinoise contemporaine. Les deux auteurs chinois, Liu Qi et Chen Jia, exploitent ici un rapport sur l'emploi des cols bleus en Chine en 2023. Ils n'ont pas effectué de recherche de terrain, mais ils en tirent un certain nombre d'enseignements pour, au fond, inciter cette jeunesse chinoise à changer de focale quant au travail manuel. Mmh. Ils écrivent que les nouvelles formes d'emploi modifient la nature même de ce que signifie d'être ouvrier. La tendance pour les travailleurs en relation avec les plateformes en ligne, notamment, serait d'adhérer à une philosophie selon laquelle plus vous travaillez, plus vous gagnez. Internet, je cite encore, a remodelé les relations sociales et de production, favorisant l'optimisation des activités ouvrières. C'est illustré par des nombreuses données. Alors, leur revenu moyen réel, tenant compte de l'inflation, en 10 ans, a été multiplié par 1,85, ce qui fait que certains cols bleus, qui travaillent en moyenne 9h30 par jour, gagnent à présent davantage que des cols blancs, enviés pourtant sur leur rang symbolique au sein de la société chinoise. Liu Qi et Chen Jia considèrent que même si la conception de la supériorité du travail intellectuel s'ancre dans l'antiquité chinoise, les nouveaux métiers ouvriers bousculent le pays, bousculent les idées reçues et par leur rémunération compétitive, je cite, il y a une série d'autres éléments chiffrés censés appuyer cette démonstration. Et les auteurs jugent ensuite que l'évolution de la perception du public quant à une utilité moindre de la stabilité de l'emploi, du travail à vie, est étroitement liée à en fait l'amélioration du droit du travail chinois qui ne fait que s'incrémenter, notamment auprès des jeunes ruraux qui tentent leur chance en ville, que ce soit comme nous, chauffeur-livreur ou tout autre métier de col bleu contemporain.
Direction le Kazakhstan, Belaouda, maintenant, où vous vous intéressez à la politique étrangère.
Oui, autonomie et revendication d'organisation de la politique étrangère du Kazakhstan. Le SWP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, basé à Berlin, sort un tour d'horizon autour du concept de puissance moyenne mondiale. Et dans ce travail de recherche collective, d'abord, il s'agit de déterminer les prises de position d'une douzaine de ces États qui partagent trois points communs, selon les auteurs. L'importance primordiale du développement économique, où les questions d'égalité sociale, économique et de justice globale sont centrales. Le fort accent mis sur la stabilité régionale et le droit international. Et puis, une aspiration à l'autonomie stratégique afin d'éviter les conflits économiques et sociaux. Et l'originalité ici porte notamment sur le Kazakhstan, classé pour la première fois dans cette catégorie de puissance moyenne mondiale. La spécialiste allemande Andrea Schmitz caractérise ce pays d'Asie centrale de 20 millions d'habitants comme doté d'une politique étrangère d'équilibre, s'appuyant sur la richesse de ses ressources, pétrole, métaux, minerais, terres rares, etc. Mais pas seulement, il y a aussi le potentiel de production du Kazakhstan dans certaines énergies dites vertes, l'hydrogène en particulier, pour lesquelles l'Union européenne manifeste un réel croissant, vu de Bruxelles et de Berlin. Cet État s'insère de manière adéquate dans le grand projet Global Gateway, le projet Portail Mondial, qui est l'initiative européenne conçue fin 2021 comme une alternative aux nouvelles routes de la soie chinoise. Et les Européens seraient d'autant plus supposés appuyer cette présence que la présidence du Kazakhstan a critiqué frontalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et cela en plein forum économique de Saint-Pétersbourg. C'était en juin 2022, passé un peu inaperçu. Pour Andrea Schmitz, le plus vaste État d'Asie centrale agit bien comme contre toute prétention hégémonique, que celle-ci soit russe, chinoise ou américaine.
Et enfin, direction le Mozambique, Benaouda, où on s'intéresse à la reconstruction des institutions publiques.
Oui, et stratégie de survie. Le sujet porte sur la région du Mozambique, le nord-est frontalier de la Tanzanie, si vous prenez une carte, où se concentrent d'immenses découvertes gazières qui attirent les plus grandes compagnies mondiales, qu'elles soient américaines, européennes ou chinoises. Et d'après une récente projection du cabinet Deloitte, ça pourrait faire que le Mozambique représente 20% de la production africaine de gaz d'ici à 2040, en partant de rien. Les projets représentent en cumulé des dizaines de milliards de dollars. La zone de cette future production de gaz naturel liquéfié de GNL a été la proie d'une insurrection armée djihadiste qui a repris ces dernières semaines de la vigueur. Le chercheur João Feijó de l'Observatoire mozambicain du monde rural, basé à Maputo, revient sur les évolutions de l'an dernier, où la sécurité s'était en fait consolidée dans un grand périmètre de 60-80 kilomètres autour de l'épicentre du principal projet, celui d'Afungi, qui est piloté par le français Total Energy. Les services publics ont certes commencé à reprendre, à revenir, et avec un rétablissement progressif des activités économiques courantes, malgré l'incertitude, malgré la précarité. Mais le trafic routier nord-sud de cette province de Cabo Delgado est resté menacé, alors même que les pouvoirs publics consacrent toujours davantage de leurs maigres moyens à assurer la sécurité. Cette réorientation des fonds, selon l'auteur mozambicain, empêche d'investir dans les infrastructures, dans les services publics, et les fonctionnaires se montrent démotivés, ce qui aggrave encore la fragilité des institutions. Alors pour João Feijó, lorsque les représentants du gouvernement mozambicain ne cessent de mettre l'accent sur le concept de terrorisme, appelant à la vigilance, à la dénonciation par la population, ça relève d'abord, selon lui, du peu d'assurance qu'a l'État dans l'approche des problèmes sociaux complexes qui dépassent la seule lecture de l'insurrection djihadiste.
Merci beaucoup, cher Benaoud Abdelhaïm. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
Alors, j'ai choisi un manuel qui se présente comme tel, qui s'appelle « Les grands enjeux de la mondialisation commerciale ». Et le sous-titre, c'est « Cours et exemples ». L'auteur, c'est Rodolphe Desbordes, qui est un professeur en école de commerce. Et c'est à la fois un manuel qui s'adresse à des étudiants.
C'est publié chez Ellipse.
Oui, c'est chez Ellipse. Donc, effectivement, ça s'adresse essentiellement à un public universitaire. Alors, on retrouve les avantages comparatifs, le théorème HOS, le théorème des élasticités critiques. On retrouve tous les éléments que l'on apprend. Et puis, il y a donc cours et exemples. Et il donne des exemples, et y compris dans l'actualité. Il pose des questions. Par exemple, est-ce que la théorie du doux commerce qui évite la guerre, ça a du sens? Donc, alors, non. Il pose la question. Il a une approche scientifique.
Ouais, mais il a fait des études. Il connaît la réponse.
Donc, voilà. Donc, c'est
Mais c'est bien à un moment où on a beaucoup de débats sur le commerce international, son intérêt, ses avantages, ses inconvénients.
Il rappelle les théories, il pose des questions, et donc ça s'adresse essentiellement à des étudiants, mais toute personne qui se veut éclairer, qui n'a pas une opinion définitive, peut lire ce livre.
Christian Chavagneux.
Moi, un livre en anglais d'un économiste français, Jérôme Sgarr, qui est économiste aux séries et qui a rencontré Jacques Delarosière. Jacques Delarosière était patron du FMI au moment où il y a la fameuse crise de la dette, crise de la dette au début des années 80, c'est en anglais chez Edouard Elgar. Et du coup, grâce à Delarosière, il a pu rencontrer Paul Volcker juste avant sa mort, le représentant des banquiers, des ministres des Finances du Mexique. Et donc, il a interviewé tous ces gens-là et il nous raconte comment en 1982, quand il y a une crise de la dette qui explose, mais comment on fait pour gérer le problème. Il n'y avait pas de manuel qui disait après cette crise de la dette, voilà les 5 points à faire. Donc il raconte, c'est un livre enquête qui nous raconte comment le FMI, le Trésor américain, la Fed, les banquiers, tous les États sont finalement bricolés quelque chose pour régler le problème de la dette et comment Jacques Delarosière a tordu complètement le bras des banquiers en disant vous avez fait des bêtises dans les années 70, vous allez remettre de l'argent et vous allez en remettre un paquet pour un bon paquet d'années. C'est un livre enquête fabuleux.
Jacques Delarosière qu'on retrouve souvent dans la librairie. Ouais. Personnage quand même extraordinaire.
À tout point de vue, c'est un individu remarquable.
Le CV le plus incroyable de toute l'histoire de la République et qui est toujours passionnant. Pierre, toujours très ouvert. C'est ça qui est. Tous les banquiers centraux ne sont pas forcément aussi
exceptionnels.
Ouais, open que Jacques Delarosière. Moi, deux livres. Alors, un livre étonnant que j'ai reçu cette semaine, un livre de photographie. Ça s'appelle Petit patron, Small Businessman, par le photographe Le Courrieux Boris. C'est aux éditions Photographie. Et comme souvent, des belles illustrations valent mieux que beaucoup de discours. Vous avez des très belles photos en noir et blanc qui raconte tout ce que peut vivre un petit patron. C'est assez remarquable. C'est un vrai livre d'art avec des très belles photos et avec, encore une fois, des photos qui disent beaucoup et qui font passer beaucoup d'émotions sur ce que peut être le haut et les bas de la vie des petits patrons. Puis alors, un livre que j'ai reçu. Alors évidemment, Jean-Marc Daniel et Christian ne pourront pas en parler parce que il est préfacé par Jean-Marc Daniel. Il faut savoir que Jean-Marc est sans doute le préfacier le plus couru de la place de Paris. C'est le succès du Sénégal. Égal Jean-Marc Daniel, manuel d'économie pour gouverner. C'est aux éditions L'Harmattan Sénégal. Un enjeu pour le devenir de l'Afrique et de l'Europe par Alain Ardiop et Yves Dalmo. Alors, il faut rappeler que, en fait, pourquoi vous êtes dans cette aventure, Jean-Marc, c'est parce que vous avez signé un papier sur le franc CFA il y a très longtemps.
Absolument.
Mais qui continue encore à faire...
La dévaluation de janvier 1994, j'avais fait un papier qui sert toujours de référence sur l'avenir de la zone franc, la bonne parité du franc CFA et le rôle du franc CFA dans le développement de l'Afrique francophone.
Voilà.
Quand j'étais au jury de l'ENA, ce qui m'arrivait d'être au jury de l'ENA, parce que j'étais haut fonctionnaire avant les journalistes, j'avais mis comme sujet d'économie la dévaluation du franc CFA, mais j'avais pas mis dans les documents l'article de Jean-Marc Daniel, sûrement à tort.
Mais forcément. Oui, d'ailleurs. Et le résultat, c'est que les gens qui ont été sélectionnés n'étaient pas à la hauteur de leur mission.
Forcément. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.